Studio Tamani, voici les informations en français.
Ouverture de la COP 28 ce jeudi à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Pour cette 28e édition, les enjeux sont certes grands, mais l'accent sera mis sur la transition énergétique, la transformation du financement climatique, entre autres. Vers l'opérationnalisation de l'Alliance pour les États du Sahel, les diplomates de l'AES sont réunis depuis ce matin à Bamako. Objectif, adopter les protocoles additionnels et mettre en place les organes politiques. Dernier jour d'émission de la radio des Nations Unies, Mikado FM au Mali. Après 8 ans, elle fait ses adieux à ses milliers d'auditeurs ce jeudi 30 novembre 2023. Voilà le sommaire de cette édition. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal présenté par Hamsetou Touré. La 28e conférence internationale pour le climat, COP28, a démarré ce matin et se poursuivra jusqu'au 12 décembre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Il est temps de s'unir, d'agir ensemble et d'apporter des solutions concrètes à la crise climatique, affirment les organisateurs. Environ 60 000 délégués représentant plus de 190 pays dont le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont attendus à cette COP. Considérée comme la plus importante depuis celle de Paris en 2015, cette conférence suscite néanmoins de nombreuses critiques. Le point avec notre envoyé spécial à Dubaï, Mohamedou Touré, avec la voix de Fatih Yatara.
L'année 2023 est l'année la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle mondiale selon une analyse de Climate Central publiée quelques jours avant le lancement de la COP28 ce jeudi à Dubaï. Ainsi, la nouvelle présidente de la COP entend se concentrer notamment sur l'accélération de la transition énergétique, la transformation du financement climatique et placer la nature, les personnes, les vies et les moyens de subsistance au cœur de l'action climatique. Dans son discours d'ouverture, le président de la COP28 a déclaré que la science a parlé et qu'il est temps d'avoir une grande ambition. Parmi les principaux résultats attendus de cette COP figure donc la sortie des énergies fossiles et la concrétisation des financements de 100 milliards de dollars par an pour réparer les dommages climatiques subis par les pays en développement comme ceux du Sahel. Déjà au cours de cette première journée, les Émirats Arabes Unis se sont engagés à verser 100 millions de dollars au titre des pertes et dommages. Mais certaines organisations estiment déjà que cette COP est une mascarade. Le directeur de la division environnement et droits humains à Human Rights Watch invite les Nations Unies à exhorter les Émirats Arabes Unis à cesser de bafouer les droits humains et à abandonner leur projet d'exploitation accrue des comestibles fossiles.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Je l'annonçais dans les titres, les ministres chargés des affaires étrangères des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, sont réunis à Bamako depuis ce jeudi. Après les travaux des experts du secteur, il s'agit pour ces diplomates de passer à l'étape de l'opérationnalisation de l'AES. Ainsi, les échanges seront consacrés à l'adoption des protocoles additionnels et des organes en place, ainsi que la définition des mesures politiques et de coordination diplomatique. Le point avec Khalifa Goïta.
Les orientations politico-diplomatiques que les trois ministres des Affaires étrangères de l'AES dégageront sont importantes. Ils contribueront à garantir un avenir commun de sérénité. Et c'est tout l'enjeu de cette rencontre pour la ministre burkinabé des Affaires étrangères, Mme Olivia Ouramba.
La recherche de l'efficacité doit nous guider. Ce faisant, nous éviterons les erreurs du passé qui ont plombé certaines institutions sous-régionales de par leur lourdeur administrative et leur caractère budgétivore. Sans résultat tangible.
Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale invite ses homologues à créer des coalitions orientées vers l'action. Abdoulaye Diop.
Le monde regarde vers nous aujourd'hui. Nous devons transformer nos paroles en actions tangibles, édifiant ainsi une architecture institutionnelle robuste qui servira de rempart contre les menaces, les convoitises qui pèsent aujourd'hui sur notre espace.
Notons que c'est la première réunion entre les trois ministres des Affaires étrangères des pays de l'AES depuis sa création le 16 septembre dernier.
Autre actualité du jour, aucun véhicule n'est autorisé à prendre les passagers à destination de Gao jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise ce mercredi 29 novembre 2023 lors de la rencontre entre le gouverneur de la région de Douanzin, des passagers et les responsables des compagnies de transport. Le chef exécutif de la localité estime que si les routes sont bloquées au car, il est interdit également aux petits véhicules. Selon un chef d'escale d'une compagnie, plusieurs passagers ont été embarqués pour retourner à Sévaré ou Bamako. Des bureaux vides, des cartons emballés et pour dire au revoir aux milliers d'auditeurs, des dernières émissions et des lives, c'est à ça que ressemble cette dernière journée de la radio Mikado FM. Après 8 ans, la radio de la MINUSMA arrête d'émettre à partir de ce 30 novembre. Draman Meïa nous fait vivre cette journée particulière dans la dite rédaction.
Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Comment ça va?
Il était midi quand Famoussa Sidibé, journaliste et présentateur au Mikado FM, lance son dernier direct sur les antennes de la radio onusienne.
L'aventure fut belle et très exaltante.
Pour lui et ses collègues, c'est une journée pleine d'émotions.
C'est la deuxième tranche d'adieu pour les auditeurs. C'est une journée particulière et assez émouvante.
Au-delà de ses sentiments, les journalistes de cette boîte se sentent ragaillardis de cette intense expérience. Une aventure prend fin, mais c'est certainement le début d'une autre plus passionnante, nous dit Mamdiara Diop, journaliste et coordinatrice des rédactions.
C'est une dynamique qui s'arrête et il faut se réinventer, penser à autre chose et se demander ce qu'on va faire demain. Nous sommes des journalistes, nous restons des journalistes, évidemment. Ça ne nous quitte jamais, donc il faut trouver d'autres perspectives.
Notons que la radio ferme ses portes suite à la résolution 2690 des Nations Unies du 30 juin 2023 qui met fin à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA.
À présent, le dossier de la semaine. Les séjours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles se poursuivent. Aujourd'hui, notre dossier de la semaine s'intéresse aux violences conjugales vues sur le plan culturel et mental. Qu'est-ce qui explique ces abus qui conduisent souvent à la mort? Le dossier est signé Adama Amadou Haïdara.
Sitanso Soumaoro, aujourd'hui femme divorcée, a subi des violences physiques de la part de son ex-mari. Des actes dont les souvenirs sont encore frais dans sa mémoire.
Pour un oui, pour un non, monsieur me battait. Il me battait parfois quand j'étais enceinte. Pourquoi est-ce qu'il me battait? Bon, je ne saurais le dire réellement.
Qu'est-ce que la tradition dit de ces actes de violence dans le couple? Moussa Balabalo, traditionnaliste, nous édifie.
Il y a des ethnies qui acceptent. Ils appellent ça des corrections. Il y a ceux qui passent par avertissement et qui pensent que c'est tolérable. Il y en a aussi qui pensent qu'il faut passer d'abord par un parent face à la culture de telle ou telle localité. La violence est acceptée ou la violence est condamnée.
Cependant, notre traditionaliste précise qu'il y a des aspects que la tradition ne tolère pas.
Des propos qui ne s'arrêtent pas à la femme elle-même, ce n'est plus acceptable. On doit le transporter sur un autre plan pour procéder à un jugement dans le vestibule de la conciliation. Au traitement corporel, le plus souvent, ça s'arrête là-bas. Elle vient montrer les plaies sur la peau. Sa maman est la première à dire que moi, j'ai essuyé plus que ça. Le père, il trouve toujours l'alibi d'accepter, de pardonner le mari quand il s'agit d'une correction corporelle.
Les actes de violence s'expliquent également sur le plan sanitaire. C'est du moins ce qu'affirme ici professeur Souleymane Koulibaly, psychiatre au CHU.G.
Le comportement sadomasochiste où le mari qui se plaît à faire porter des violences sur la femme et la femme qui se plaît à recevoir effectivement ces violences-là. Des troubles de la personnalité paranoïaque, des troubles caractériels et psychopathiques, des troubles, c'est un ensemble de troubles qui concernent la personnalité, les personnes qui sont proches. C'est eux qui vont souffrir auprès de ces personnes-là.
Pour éviter l'irréparable, Moussa Balabalo conseille au couple de privilégier la communication.
Tout ce que tu ne comprends pas chez l'autre, demande-lui. Et si tu n'acceptes pas, dis-le-lui clairement et de façon polie. Et la femme, il faut être docile, se préparer à tout accepter, même s'il ne faut pas tout concevoir.
Malgré les nombreuses sensibilisations, les violences faites aux femmes et filles continuent de faire des victimes.
À présent, nous retrouvons Mariam Maïga pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mariam.
Bonsoir Hamsetou.
Alors, de quoi parle le Grand Dialogue de ce soir?
Ce soir, nous allons à Badjangara pour parler de cette nouvelle forme d'insécurité. Et on va en parler avec trois invités, Dr Ali Tunkara, chercheur et directeur du Centre exécutif des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, CE3S, Aluseni Guindo, spécialiste des questions sécuritaires. Et au téléphone depuis Badjangara, Sana Kassambara, conseiller à la mairie.
C'est noté, Mariam. Pour réécouter ce journal, appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Vous pouvez retrouver également toutes nos productions sur l'application Studio Tamani téléchargeable sur Play Store. C'est ce qui referme ce journal qui vous a été présenté par Hamsetou Touré à la mise en onde Salim Djouara. Dans un instant, le magazine Tous les enfants du Mali.
Attention, la dengue existe au Mali. De nombreux cas sont enregistrés dans le pays. Ousmane Touré, un malade guéri, nous parle des symptômes de la maladie.
Moi, j'ai eu la dengue. Ça s'est d'abord manifesté par beaucoup de courbatures, de violents maux de tête, des nausées. Je me sentais très, très, très faible également. Mais le fort, c'est vraiment les courbatures qui m'ont fatigué. On a mal absolument partout, de la tête aux pieds.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Seule une prise en charge rapide augmente les chances de guérison, affirme Monsieur Touré.
Ce n'est ni un palu, ni autre chose, c'est la dengue. Et c'est vrai que c'est provoqué par les moustiques. Et il faut prendre cette maladie au sérieux parce qu'elle est en train de faire énormément de mal, énormément de dégâts autour de nous. Il faut se faire dépister. En cas de besoin, n'allons pas seulement faire le test du palu, faisons également le test de la dengue pour nous rassurer.
Ceci est un message des studios Tamani.
En partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
Les relations entre grands-parents et petits-enfants sont toujours empreintes d'affection et d'attachement les uns envers les autres au Mali. Mais la manière de manifester cette affection ou cet attachement diffère d'une communauté à une autre. Même si de façon générale, ce rapport se caractérise par la complicité, la plaisanterie, l'attention entre autres. Relations grands-parents et petits-enfants, c'est le sujet du magazine Tous les enfants du Mali. Il est réalisé par Lale Tangara avec le concours de nos correspondants locaux.
La relation entre grands-parents et petits-enfants au Mali de façon générale est marquée par l'attachement des uns aux autres. Des enfants de Tominia, Kolokani et Bamako témoignent.
J'apprécie mon grand-père qui aime s'amuser avec moi.
Je m'attends très bien avec mes grands-parents, mais souvent ils me livrent à mes parents.
Très souvent à mon retour de l'école, je prends du plaisir à nettoyer chez ma grand-mère. On se taquine bien.
J'envie mes camarades qui s'amusent avec leurs grands-parents. Les miens ne vivent plus.
Cette relation pour moi est d'une importance. On est bien protégé par eux face à nos parents.
Cette affection entre grands-parents et petits-enfants se manifeste de différentes manières en fonction des cultures. Chez les Soninké, par exemple, la relation grands-parents et petits-enfants est agrémentée par des plaisanteries, des taquineries. Massiré Damélé, traditionnaliste à Guri Diafounou, dans le cercle de Yelimani, une localité majoritairement Soninké.
Quand ta longévité te permet de voir tes petits-enfants, c'est une très bonne chose. Si c'est un garçon, il devient ton rival. Mais si c'est une fille, c'est ta petite femme. Vous devenez comme des complices, ce qui n'est pas toujours possible avec tes propres enfants.
À Yoroso, dans la région de Kuchala, en pays Mianka, cette plaisanterie entre grands-parents et petits-enfants a des limites, nous dit Yaya Guita, enseignant à la retraite à Yoroso.
Il a été permis, mais à une condition. Ne pas trop l'offusquer. Son petit-fils pouvait lui dire la vérité. Papa, est-ce que tu t'es lavé aujourd'hui? Mais le fils ne pouvait pas lui dire ça. Et ensuite, la vie continuait. Et le vieux ne se mettait jamais en colère. Les limites à ne pas dépasser, ça c'est les insultes grossières. Ne pas insulter le vieux et puis prendre un bâton et le frapper, ça c'était des interdits.
Des interdits. Il en existe aussi dans les relations entre grands-parents et petits-enfants chez les communautés du nord du pays. Dans les cultures Sonraï et Tamashek, le grand-père ou la grand-mère a presque le même statut que le père ou la mère pour les petits-enfants. San Chirifi Alpha,
notable à Tombouctou.
Le île où elle a beaucoup plus de liberté avec ce grand-père, donc ce qui crée des relations de cousinage. Mais il faut dire que ça reste dans les limites du respect qu'on ne doit pas franchir, parce que ton grand-père, mais c'est le parent de ton père quand même.
Le sociologue Afodie Tandjougoura explique que cette relation détendue qui existe entre grands-parents et petits-enfants est bénéfique pour la société, car elle donne aux petits-enfants un certain rôle dans la famille.
Ce qu'il faut savoir des relations entre grands-parents et petits-fils, c'est que ces relations, on en trouve chez presque toutes les ethnies du Mali. Parce que, eh bien, les effets que cela implique sont bénéfiques pour la société. Ça peut être, lorsque le grand-père est en colère, le petit-fils a cette capacité de le raisonner ou d'estomper la colère en lui. Le fils ne pourrait pas le faire. Donc, le petit-fils joue ce rôle crucial.
Il faut signaler que cette joie de vivre que procure la relation entre grands-parents et petits-enfants est en train de disparaître. Cela à cause des familles de plus en plus nucléaires, où on ne trouve que les deux parents et leurs enfants.